Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très bon sabbat. Nous sommes obligés de faire des choix dans la vie. Nous faisons des choix tous les jours. Parfois, ces choix ne sont pas très importants pour nos vies à long terme. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va lire, quels vêtements on va mettre. Mais à d'autres moments, les choix que nous prenons, que nous faisons, sont très importants pour la suite de nos vies. Proverbe chapitre 14, verset 12 nous dit « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Parfois, nous faisons des êtres humains prendre des décisions qui finissent par les nuire gravement par la suite. Michel Foucault a dit « Les gens savent ce qu'ils font. Souvent, ils savent pourquoi ils le font. Mais ce qu'ils ignorent, c'est l'effet produit par ce qu'ils font. » C'est-à-dire, nous ne voyons pas toujours les résultats à long terme de nos choix. La vie peut apporter son lot de surprises et de revirements. Nous sommes parfois confrontés aux résultats de mauvais choix ou de résultats de choix inattendus. On raconte une blague au sujet de Jean-Paul Sartre, l'existentialiste qui ne croyait pas dans un au-delà. Au moment de la résurrection, il est ressuscité. Il dit, ben, ce n'est pas ce que j'attendais. Et quand on lui pose la question, ben, qu'est-ce que tu attendais? Il a dit, eh ben, rien. Il y aura des surprises dans la résurrection. J'aimerais vous parler aujourd'hui de 10 défis que nous aurons à affronter dans les années à venir pour vivre en conformité avec la volonté de Dieu et pour avoir des vies épanouies et solides, pour vivre des vies équilibrées et saines. Voici ces 10 défis. Premier défi, c'est de découvrir le murmure intérieur doux et léger. Reportez-vous avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. À partir du verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, en voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla seul dans les airs, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. L'Éternel n'était pas dans tous ces autres effets qui ont eu lieu, il était dans le murmure doux et léger. Dans cette histoire, Élie était fâché avec Dieu. Et apparemment, il pensait que Dieu était là, là, quelque part, à l'extérieur, lointain de lui. Et dans un sens, il était. Dieu est au ciel. Mais dans un autre sens, Dieu est à côté de nous et en nous. Parfois, les jeunes dans l'église peuvent voir Dieu comme cela aussi. Dieu est tout puissant, il a créé la terre, il pourrait décider de la détruire s'il voulait. Pourtant, ici, nous voyons Dieu n'est pas seulement là-bas, pas seulement à l'extérieur. Il s'est révélé à Élie de manière douce et très personnelle. Qu'est-ce que cela nous montre pour nous et nos rapports avec Dieu? Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Nous sommes au sommet de sa création physique. Il nous a créés pour qu'il puisse avoir une relation personnelle avec nous. Il est en train de créer, de développer des enfants. Il est de notre côté, ou plutôt, il veut que nous soyons de ses côtés. Nous devons découvrir et accepter ce murmure doux et léger, intérieur à nous, dans chacun de nous individuellement. Notre relation avec Dieu ne peut pas dépendre de qui que ce soit d'autre, pas de notre conjoint, pas de nos parents, pas de notre pasteur, c'est entre nous et Dieu. C'est un défi. Dieu veut que nous le trouvons, et il va nous permettre de le trouver si nous le cherchons. Le monde dans lequel on vit croit souvent en l'existence de Dieu, sans croire que Dieu fait une différence, qu'il intervient dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Son existence ne fait aucune différence dans la vie de la plupart des gens. Mais nous qui avons été appelés par Dieu, il ne doit pas être ainsi pour nous. Cela peut faire une grande différence dans nos vies, pour nous. Nous devons écouter et nous devons nous soumettre à ce murmure doux et léger. Deuxième défi à affronter. Éviter de mauvaises habitudes. Éviter des habitudes nuisibles. Parfois, les gens croient, sans trop y réfléchir, que quelque chose va les soulager, va les faire sentir mieux dans leur peau. Ça peut être des choses comme la drogue, le matérialisme, la sexualité illicite, une idéologie, une idée, des mots. On pense que ces choses-là peuvent nous soulager plus rapidement que Dieu ne le peut. Et on finit par s'attirer beaucoup de difficultés par la suite. Regardons Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu 6, 24. Là, nous lisons, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent, tout ce qui est matériel. Tout peut devenir une idole, si la chose en question devient plus importante que Dieu dans nos vies. Tout ce qui passerait avant Dieu, devant Dieu dans nos vies, est devenu une idole. Tous les jours, il y a des tentations omniprésentes de solutions à la va-vite. La société nous offre, achète ceci, achète cela, et tu seras bien, tu seras mieux. Regarde ces images à la télé de personnes tellement satisfaites maintenant qu'ils ont ceci ou cela. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Rappelons-nous l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or, c'est une histoire d'une solution à la va-vite, solution immédiate à un désir. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Il tarde un peu de temps et il veut une solution immédiate. Il veut être soulagé, il veut être réconforté. Alors il décide de se faire un veau d'or. Israël avait vu Dieu faire des miracles époustouflants par les mains de Moïse. Mais alors que Moïse tarde sur la montagne, il n'est pas revenu. Il y avait des tonnerres, des éclairs, des trompettes étranges, etc. Mais pas de Moïse. Des jours ont passé, puis des semaines. Quand il faisait un soleil de plomb le jour, il y avait parfois des tempêtes de sable. Les nuits dans le désert étaient très froides. Puis un mois et aucun signe de vie. D'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient au milieu du désert et l'homme qui les avait guidés jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il était devenu? Ils ne savaient pas. Alors ils ont décidé de prendre les affaires en main eux-mêmes. Ils voulaient créer une présence physique, quelque chose qu'ils pouvaient voir et toucher pour les réconforter. Une idole. Une solution à l'emporte-pièce, à la va-vite. Mais le veau d'or, en fait, leur a caché la réalité de Dieu, a obscurci leur relation avec lui. Un peu de la même manière, parfois nous sommes tentés de nous réconforter nous-mêmes, en dirigeant notre attention et nos efforts vers quelque chose de physique, quelque chose qui nous fait sentir mieux sur le moment. Et quand nous faisons cela de manière illicite, nous repoussons Dieu. Nous nous éloignons de lui. Ce défi est de rester éveillé spirituellement, de ne pas permettre à nos valeurs spirituelles de devenir confuses ou mélangées. Et ça sera un défi d'éviter de mauvaises habitudes, d'habitudes nuisibles. Troisième défi, apprendre à maîtriser la colère et la propre justice. Apprendre à maîtriser la colère et la propre justice. Nous vivons dans un monde de plus en plus en colère. On voit les guerres un peu partout, déclarées ou non déclarées. Il y a du terrorisme, il y a des tensions entre différentes religions, entre races, entre tribus, entre personnes de même race. Maintenir la maîtrise de soi sera un défi grandissant. Alors que le monde va devenir de plus en plus enragé. Regardons Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 5. Philippiens chapitre 4. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Douceur. Que notre douceur soit connue. La douceur avec les gens qui ne sont pas forcément doux avec nous. La Bible de Jérusalem traduit le mot douceur, modération. Et ça, c'est une bonne traduction également. La Nouvelle Bible Second le traduit attitude conciliante. Tout cela se réfère à la maîtrise de soi dans des situations éprouvantes, avec les gens qui sont difficiles. Nous vivons dans un monde où les gens peuvent facilement mépriser ceux qui ne sont pas comme eux, ou qui ne voient pas le monde comme eux. Nous devons agir selon ce qui est droit devant Dieu, non pas selon ce qui est juste aux yeux des gens. Sinon, nos consciences ne seront pas informées par la loi de Dieu, mais par la société, qui part à la dérive maintenant. Mais en faisant cela, nous devons traiter tout le monde avec respect, ne pas adopter une attitude critique ou ne pas devenir moqueur, ne pas les amoindrir pour que nous puissions nous sentir mieux, de ne pas nous venger par nos paroles sur les gens. Si nous ne maîtrisons pas notre colère envers les autres, nous nous mettons à la place de Dieu, qui seul a le droit de juger et de venger. Quand les gens se regardent du haut, se méprisent, ce n'est pas l'amour de Dieu qui se manifeste quand on méprise d'autres personnes. Cela me rappelle le poème ou le texte de Rudyard Kipling, qui s'intitule « Si ». Si tu peux rester calme, alors que tous tes proches semblent perdre la tête et vouloir t'en blâmer. Si tu peux croire en toi face à tout le reproche, mais comprendre leurs doutes et toujours les aimer. Si tu peux espérer sans te lasser d'attendre, si tu ne sais mentir à ceux qui t'ont menti, si celui qui te hait ne peut le lui rendre, mais sans parler en sage ou sembler trop gentil. Si tu rêves, mais sans que ton rêve t'envoûte, si tu penses, mais non vers d'abstraites hauteurs, et si tu sais passer de triomphe en déroute sans te laisser berner par ces deux imposteurs. Si tu peux supporter qu'un vil faquin dévie le sens de tes propos pour abuser les sots, ou voir briser ton œuvre et pencher sur ta vie avec de vieux outils assembler les morceaux. Si tu peux risquer tous tes gains à pile ou face, simple lot au hasard d'un seul coup suspendu, tout perdre et repartir de tes débuts sans place en toi pour un soupir sur ton pari perdu. Si tu forces ton cœur, tes nerfs, tes tendons, même quand las de t'obéir, ils s'en sont détournés, et si ta volonté, résistance suprême à ton vide total, leur dit toujours « tenez ». Si tu sais rester noble en parlant à la foule, si tu sais rester simple en côtoyant les rois, si pas plus que l'ami, l'ennemi ne te foule, si tout homme t'est cher, mais nul n'a trop de poids, et si tu peux remplir la minute exigeante de secondes valant la course que tu fis, la terre t'appartient, et leçon plus grisante, tu seras un homme, mon fils. C'est un poème qui est très connu dans le monde anglophone et dans beaucoup d'autres langues également. Ça parle surtout de la maîtrise de soi, la douceur, la maîtrise de soi, la modération, comme nous l'avons dit. C'est ce qu'il nous faut. Ça, c'est le troisième défi, apprendre à maîtriser la colère et la propre justice. Quatrième défi, maintenant. Faire une pause régulièrement pour renouer avec nos valeurs spirituelles. Regardons Ecclésiaste chapitre 1, à partir du verset 1. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-dessus de tout ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit « voici, c'est nouveau », cette chose existait déjà, dans les siècles qui nous ont précédés. Toujours la même chose. Train-train quotidien. Métro, boulot, dodo. Alors, quelle était sa réaction d'avoir constaté que la vie était comme cela? Chapitre 2, verset 1. J'ai dit en mon cœur, « Allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là, une vanité. J'essaierai ceci, j'essaierai cela. Mais finalement, Salomon est revenu aux choses simples, pour renouer avec ce qui est vraiment important dans la vie, ses rapports avec Dieu et ses rapports avec les autres. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Après toutes ces expériences qu'il a fait en ceci et en cela, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement et tout est sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas des choses. Ce sont des relations que nous avons avec d'autres personnes et avant tout avec notre Créateur. Alors nous devons prendre des moments tous les jours pour nous reconnecter, si je puis dire, avec notre Père Céleste, des moments pour la prière, l'étude de sa parole, des moments aussi pour plonger nos regards dans le visage de ceux que nous aimons, de bien se regarder et profiter de cet amour qui nous unit avec les membres de nos familles, avec nos amis. Des moments aussi chaque semaine pour nous assembler quand nous le pouvons avec ceux qui ont été appelés par Dieu comme nous, pour fraterniser avec eux, pour être encouragés et réconfortés dans nos convictions. Nous avons besoin d'un temps de liberté, des contraintes et des luttes matérielles, du jour, de la semaine, de l'année, chaque jour par la prière, chaque semaine par l'observance du sabbat, chaque année par les jours saints. Nous devons sortir de la vie de l'école, du fac, du travail, du train-train quotidien, comme j'ai dit, et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous avons besoin de revenir à ce qui est vraiment vrai, ce qui est véritablement important. Alors ce quatrième défi, c'est que nous devons faire une pause régulièrement pour renouer avec nos valeurs spirituelles. Cinquième de ces 10 défis. Cinquième, maintenir des relations proches et étroites avec les membres de nos familles. Maintenir des relations proches et étroites avec notre famille. La société moderne, au moins dans l'Occident, devient de plus en plus mobile. Nous nous déplaçons tout le temps. Nous sommes très occupés, souvent trop occupés. Les choses changent si vite que cela peut ajouter du stress à notre vie de famille, à notre vie dans nos foyers. Ou alors, allons-nous permettre à ce que nos relations souffrent à cause de toutes les affaires physiques qui peuvent accaparer notre attention si facilement? Il ne faut pas permettre à ce que cela arrive. Et ça peut être difficile. Il faut se concentrer sur la chose. Les parents ne sont pas parfaits. Ils se trompent. Il y a des parents qui ont été ou qui sont abusifs. Peut-être avons-nous des souvenirs de ce genre de parents, du moment de notre enfance. Mais pour avoir une paix intérieure, il est important d'avoir de bonnes relations avec ses parents, d'avoir une certaine intimité, même si parfois les enfants doivent mettre quelques limites à leur intimité ou à leur contact avec les parents pour différentes raisons. Mais il est important quand même de rester bien lié, de rester connecté. Regardons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Honorez ses parents. Prendre soin des relations avec nos enfants également. Chaque membre d'une famille a la responsabilité d'essayer de renforcer les liens d'unité dans la famille, de montrer de l'honneur et du respect aux membres de nos familles. Maintenir une vie de famille respectueuse, honorable, surtout avec nos parents. Et ça peut présenter un défi en soi. Ça ne se passe pas parfois sans un effort de notre part. Mais l'effort vaut la peine. Parfois, en vieillissant, nos parents ont de plus en plus besoin d'aide. Ça peut exiger plus de temps que nous ne devions pas leur consacrer de par le passé. Mais il est important de faire ce que nous pouvons pour les honorer et leur témoigner du respect. La vie est ainsi. Maintenir une relation familiale saine et respectueuse et honorable sera un défi de plus en plus grandissant avec le temps, puisque nous voyons que cela se perd beaucoup dans nos sociétés, les sociétés qui nous entourent. Alors, cinquième défi, maintenir des relations proches et étroites avec notre famille. Sixième défi, respecter tout le monde. Ne pas faire du mal à soi-même ni à autrui. Matthieu chapitre 22. La violence devient de plus en plus acceptable dans certaines sociétés aujourd'hui. Je le vois aux États-Unis, nous le voyons en Europe. Mais il ne doit pas être ainsi dans nos vies en tant qu'appelés de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 39. Mais prenons le verset 37 pour ne pas couper la pensée. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fait de tuer quelqu'un ou le fait d'être méchant aux autres sont très courants dans le monde dans lequel nous vivons. La guerre en Ukraine montre cela. La vie ne vaut pas cher dans l'esprit de certaines personnes. Le meurtre est l'exemple le plus voyant, c'est souvent dans les nouvelles, mais sous la surface, j'ai d'autres exemples d'un manque de respect, du dépit pour les autres, manque de respect envers autrui. Le vandalisme, les blagues qui amoindrissent d'autres personnes. Certains gens passent leur temps à écraser l'esprit des autres, à essayer de les écraser vraiment, les faire sentir petits, incompétents, incapables. Peut-être avez-vous eu des professeurs comme cela. Quand j'ai fait mes études à l'université de Strasbourg, j'avais des profs formidables, mais il y en avait quelques-uns également qui rapetissaient les étudiants. Je me souviens très clairement, encore aujourd'hui, en rendant une rédaction à un étudiant devant toute la classe, le prof dirait des choses comme « Vous n'avez pas votre place à l'université, vous devrez être encore au lycée. » Et on voyait la personne écrasée sous nos yeux. « Vous n'avez rien compris de ce que je vous ai demandé. C'est un des efforts les plus lamentables que j'ai jamais vu. » Vraiment, il prononçait des choses comme cela. Tout cela devant toute la classe. C'était pas nécessaire. Ça ne servait à rien, c'était humiliant, sans besoin. Il écrasait les esprits de ses étudiants. Les enfants peuvent être cruels les uns avec les autres, n'est-ce pas? En se moquant des vêtements, de l'intelligence, des points faibles, et ainsi de suite. Je me souviens d'un film qui est sorti en 1996 en France, qui avait pour titre « Ridicule ». La scène était des dernières années de la monarchie française, et le thème du film était la joie que prenaient les gens à ridiculiser d'autres gens. Le film a reçu beaucoup de prix, et je pense à juste titre. Ça fait partie de la nature humaine. Ça vient de Satan, en fait, ce désir d'écraser autrui. Nous aurons peut-être à nous remettre de blessures que nous avons reçues. Quand nous avons été blessés par d'autres personnes, il est difficile d'être conciliant et de les respecter. Il faut surmonter ces expériences négatives, laisser guérir des plaies si nous en avons avec l'aide de Dieu. Dieu peut, par sa force, nous aider à guérir de ces choses passées. Et ensuite, nous devons nous demander, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a été blessé par ma façon de faire, par ma façon de m'exprimer, de me comporter? Nous devons penser à des gestes que nous pouvons accomplir pour soutenir les autres et pour les aider à remettre de leurs blessures s'il y en a. Nous devons nous protéger les uns les autres dans l'Église de Dieu et même envers d'autres personnes. Être protecteur envers d'autres personnes, envers autrui. L'œuvre de l'Église est un effort de protéger le monde entier. Nous essayons de protéger le monde en lui transmettant la vérité que Dieu nous a donnée, nous a montrée. Nous essayons de sauver faire notre part pour sauver ce que Dieu désire sauver maintenant. Que cette vie en vaut la peine et que nous pouvons accomplir des choses qui vont durer dans le temps. Alors, ça c'est un sixième défi pour nous. Respecter tout le monde, ne pas faire du mal, ni à soi-même, ni aux autres. Septième défi, avoir une vie sexuelle saine et pure. Avoir une vie sexuelle saine et pure. Les images de la sexualité nous entourent de plus en plus ouvertement également, dans des revues, dans des films, à la télé. On vend pratiquement tout en ajoutant un élément sexuel dans les publicités. Les top modèles et les actrices doivent aller toujours plus loin dans la sensualité pour attirer l'attention des spectateurs, des consommateurs. Et parce que le sexe est tellement employé dans les médias pour pousser les gens vers un désir furieux et illicite, les gens croient parfois que la sexualité doit avoir quelque chose de sale, parce que les hommes l'ont sali. L'Église catholique enseigne que la sexualité, même entre époux et épouse légitime, est un péché. Ils n'ont pas l'intention de faire un enfant, c'est un péché véniel. Je me souviens d'avoir une discussion en France avec quelques personnes, des voisins en Alsace quand nous habitions. Ils savaient que j'étais pasteur, et au cours de la conversation, l'un d'eux a employé le mot « sexe » dans une phrase. C'était pas dans un sens négatif, mais il a employé le mot. Et puis, il s'est rappelé que j'étais pasteur, il s'est tourné vers moi, il a dit « Oh, pardon !» Comme si un pasteur n'employerait pas le mot « sexe ». Quand je lui ai dit que la sexualité était un don de Dieu et une bonne chose, il resta bouche bée. Ce n'est pas ce qu'il avait appris. Non pas quand c'est mal utilisé, c'est pas un cadeau, c'est pas positif, mais quand nous l'utilisons correctement, selon le plan de Dieu, et comme Dieu nous l'explique dans la Bible, c'est un merveilleux cadeau entre mari et femme. Matthieu 19, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 19, verset 4. Matthieu chapitre 19, verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres sexuels. Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Et il nous donne une instruction fondamentale. Les deux deviendront une seule chair. Cela implique la sexualité. Ça va plus loin que ça, de devenir une seule chair. C'est pas uniquement physique, c'est aussi émotionnel, il y a d'autres facettes à cela. Mais Dieu a créé la sexualité comme un don merveilleux aux êtres humains. Mais comme dans presque tout, les êtres humains ont abusé de ce don. Ils l'ont mal employé depuis presque toute l'histoire de l'humanité. Un peu comme un feu. Quand nous avons un feu dans la cheminée, quand il fait froid, alors ça c'est agréable et utile. On aime s'asseoir dans son fauteuil à côté du feu dans une telle circonstance. Mais si quelqu'un prenait un feu dans une pelle et le jetait sur nos genoux, ça serait tout autre chose. Là, on n'aimerait pas du tout. Ça serait pénible et nuisible. La sexualité à sa place est tout bon. La sexualité qui sort de sa place devient très destructrice. Proverbe chapitre 6, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 6, verset 27. Proverbe chapitre 6, verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. La sexualité doit rester à sa place. J'imagine que vous l'avez remarqué si vous écoutez la musique à la radio parfois, il y a des chansons d'amour qui parlent du moment quand on se rencontre, qui ces moments sont remplis de joie, de fascination, de passion. Mais quand on chante à propos de l'amour après un bout de chemin, c'est très souvent triste, parce que ça n'a pas fini comme cela a commencé, parce que les gens ne comprennent pas le rôle véritable de l'amour et de la sexualité dans la vie conjugale. Il y a beaucoup de tristesse associée à la sexualité. Il y a même des suicides ou des meurtres qui se commettent à cause de cela, une mauvaise utilisation. La fidélité dans le mariage. Cela veut dire d'attendre, de faire confiance à Dieu et de faire les choses comme il faut quand on est jeune et de rester fidèle et très engagé dans son mariage quand on a vécu ensemble dans sa vie maritale. Donc, septième défi, avoir une vie sexuelle pure et saine. Huitième défi, accomplir nos buts sans nuire aux autres. Accomplir nos buts, atteindre nos buts sans nuire aux autres. Beaucoup de gens, surtout dans leur vie professionnelle, sont sournois, trompeurs, insensibles aux besoins d'autrui. On essaie de voler les idées des autres, on essaie de donner l'impression que nous avons accompli quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, etc. Ça, si vous êtes au travail, vous avez vu des choses comme cela. Beaucoup de gens sont sournois, trompeurs et insensibles aux besoins d'autrui. Pour avoir de l'avancement, pour avoir une augmentation, ils sont prêts à piétiner leur co-ouvrier. C'est très souvent le cas. Alors, comme j'ai dit, on tord la vérité, on arrange les choses pour projeter ses propres fautes sur quelqu'un d'autre et pour prendre la gloire de ce que quelqu'un d'autre a fait. Il y a des nuisances que nous rencontrons souvent. Des gens s'impatientent, ils interrompent dans la conversation. On prend des raccourcis, on lèse sur la qualité et puis on ment plutôt pour couvrir la faute. On peut être impoli et froid aux autres, surtout s'ils semblent moins intelligents ou moins capables que nous. Exagérer ou dénaturer nos capacités ou nos références. Faire semblant pour se faire aimer ou pour s'assurer la coopération de quelqu'un d'autre. Exploiter l'innocence ou la gentillesse de quelqu'un, c'est monnaie courante dans le monde dans lequel on vit. Et nous pouvons être affectés par ce mode de pensée si on ne fait pas très attention. Philippiens 2, 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Au lieu de considérer ses propres intérêts avant tout, nous devons considérer les besoins des autres également. Accomplir nos buts, nous pouvons essayer d'avancer dans la vie professionnelle, mais sans nuire aux autres, sans traiter les gens comme des objets ou des obstacles à notre réussite. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considérer aussi ceux des gens qui nous entourent. Neuvième défi. Être édifiant par nos paroles et non pas blessant par nos paroles. Être édifiant par nos paroles et non pas blessant. Mentir, exagérer, cancaner, le commérage, tout cela est très courant. Il y a même des publications qui sont entièrement, ou presque entièrement, dévouées au commérage, à propos des célébrités, à propos des vedettes. Un tel a couché avec un autre, etc., etc. Regardons Proverbe chapitre 12, verset 18. Proverbe chapitre 12, verset 18. Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Blesser comme une glaive ou apporter la guérison. Dans la vie de tous les jours, les enfants sont souvent la cible de railleries de leurs camarades de classe. Ça blesse. Vous avez peut-être des souvenirs de cela. Nous sommes parfois mal à l'aise à cause des paroles blessantes de quelqu'un dans une conversation qui amoindrit quelqu'un d'autre ou une autre personne qui domine complètement la conversation. Nous pouvons être trahis par un ami proche ou un membre de la famille ou un couvrier qui a divulgué des choses qui auraient dû rester privées, etc. C'est difficile à réparer de telles choses, très difficile. Il faut toujours penser plusieurs fois avant d'ouvrir la bouche. Un étudiant fâché avec un professeur a raconté des histoires négatives et fausses à son sujet. Puis, pris de remords, il est allé voir le professeur pour demander pardon. « Si tu veux te racheter et réparer la faute, je te conseille de prendre plusieurs oreillers à plumes, les ouvrir et laisser le vent éparpiller les plumes. » L'étudiant a fait comme on lui avait demandé. Quand il est revenu voir le professeur, ce dernier lui a dit calmement, « Il te reste une chose à faire. Va rassembler toutes les plumes. »« Comment puis-je faire cela? C'est impossible. Le vent les a éparpillées vraiment partout. » Le professeur a dit, « Maintenant, tu commences à comprendre la puissance des mots. Une fois que tu as commencé un commérage ou que tu l'as répété à d'autres, la rumeur part de tous les sens et c'est très difficile à réparer les dégâts. » Nous devons être très sensibles à la puissance de nos paroles. Et nous poser souvent la question, est-ce que mes paroles feront du bien ou feront du mal? Nous voulons tenir des propos qui vont faire du bien, uniquement, uniquement. Le dernier défi, c'est d'apprécier ce que nous avons au lieu de nous inquiéter de ce que nous n'avons pas. Apprécier ce que nous avons au lieu de nous inquiéter de ce que nous n'avons pas. Les publicités aujourd'hui nous poussent souvent à nous comparer à d'autres personnes et de vouloir avoir ce qu'ils ont. Plus grande maison, plus grand vélo, plus grande voiture, revenus, beauté, l'argent. Et il y a des gens qui passent leur vie remplis de regrets, de désirs et de convoitises à cause de leur comparaison les uns avec les autres. Non pas un désir d'améliorer sa vie, ça c'est normal, d'avancer, ça c'est tout à fait normal, de bien travailler pour avancer, mais il y a des gens animés d'une envie constante d'avoir toujours plus, le désir d'avoir autre chose, au point où on a l'impression qu'on ne sera pas complet sans sa réalisation. Si je n'ai pas ça, alors ma vie sera un échec, alors que ce n'est pas le cas. Proverbe 15, verset 27. Proverbe chapitre 15, verset 27. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, celui qui veut toujours plus, est prêt même à faire des choses malhonnêtes pour avoir plus. Le romancier américain Gore Vidal a dit, « À chaque fois qu'un ami réussit, je meurs un peu. » Il est jaloux de la réussite, même de ses amis. C'est triste, n'est-ce pas? « Chaque fois qu'un ami réussit, je meurs un peu. » La jalousie, le fait de se comparer aux autres, tout cela peut nous rendre malades, mentalement et même physiquement. Il y a de la sagesse et la paix qui vient quand on peut dire sincèrement, eh bien, ce n'est pas ce que je voulais, mais c'est ce que j'ai, alors j'accepte. C'est ce que j'ai, et j'accepte. Je fais la paix avec cela. Il y a une règle de trois bonnes choses que vous pouvez essayer, si vous le désirez, pour voir si ça fera une différence pour vous. La règle de trois bonnes choses, c'est, chaque nuit, avant de se coucher, de se dire, aujourd'hui, trois bonnes choses me sont arrivées, et de les énumérer. Ça peut changer notre façon de regarder la journée et de regarder la vie. Aujourd'hui, trois bonnes choses me sont arrivées. Elles sont, et on se concentre sur ce qui est positif, au lieu de vouloir ce que peuvent avoir d'autres personnes. Cela nous aide à garder nos yeux et nos esprits fixés sur le positif. Les 10 défis que nous venons de voir ensemble représentent un mode de vie, une voie que peu de gens suivent sur la terre aujourd'hui, mais c'est le chemin que nous devons prendre dans les années à venir. Une dernière chose avant de terminer. Vous avez peut-être reconnu certains de ces points dans les Saintes Écritures, déjà. Mais je veux vous dire que chacun de ces 10 défis n'est autre qu'une reformulation de l'un des 10 commandements. Si vous avez pris des notes et vous comparez, vous allez voir ça clairement, avec les 10 commandements dans l'ordre. C'est un chemin resserré que le monde ne prend pas. C'est un chemin resserré que nous devons prendre. Et nous n'allons pas voyager seuls. Nous nous épaulons les uns les autres, et surtout, Dieu est à nos côtés pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous affermir. Il nous relève quand nous tombons, et il nous montre notre route, quelle voie prendre à chaque carrefour. Nous avons relevé des défis qui définissent le chemin qui mène à la vie éternelle. Continuons-y.